Je me suis longtemps interrogé sur la raison mystérieuse de mon entêtement à vouloir qu'on me reconnaisse comme écrivain. Faute de réponse convaincante, je m'en étais remis à ce diagnostic d'une psychiatre qui, après une rencontre, m'avait lancé qu'on ne devient pas écrivain sans une figure d'écrivain dans la famille ou l'entourage immédiat. Autrement dit, à l'instar du narrateur de la recherche, chaque écrivain a son Bergotte. Il faut croire que je cherchais à recoller la page manquante de ma vie, celle qui, en lettrine ouvragée, annonce le programme. Sans couverture, je menais une vie sans aucun titre. Restait à en trouver un et à m'en dire l'auteur. Ce qui est peut-être la seule motivation de l'écriture. De sorte que prendre le chemin du kiosque, ce n'était pas seulement, comme je l'ai cru longtemps, me livrer à une activité nourricière, celle-là ou une autre, pourvu qu'elle m'assure un semblant de survie et me garde l'esprit libre, comme un grand hangar dégagé, laissant toute la place à mes échafaudages poétiques. Pas une seconde je n'ai pensé alors que les raisons qui me poussaient rue de Flandre ne tenaient pas seulement au hasard d'une rencontre avec un peintre maudit, ex et futur marchand de journaux, et que, dans ce kiosque posé sur le trottoir, je me rendais en réalité dans une sorte de clinique réparatrice de la mémoire blessée.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
En France, plus qu'ailleurs, paraît-il, des milliers de gens pensent pouvoir devenir écrivains. Les sites d'édition à compte d'auteur vivent d'ailleurs grassement de l'exploitation de ce rêve qui débouche rarement sur une reconnaissance publique. Étrange fascination d'un peuple qui achète de moins en moins de livres mais joue de plus en plus au loto pour ce statut d'écrivain qui ne permet pourtant pas d'accéder à la fortune et rarement à la célébrité. D'autant qu'écrire, ce n'est pas aussi facile qu'on le croit. Relisons les lettres de Flaubert qui souffre et enrage et en perd le sommeil à force de chercher le mot, la phrase, la nuance la plus proche de sa pensée. Route aride, même pour un écrivain immense qui rata si magistralement sa tentation de Saint-Antoine alors qu'il pensait tenir là son chef-d'œuvre. Et pourtant, parfois, le rêve se réalise. En 1990, le Goncourt fut attribué au Champ d'honneur de Jean Rouault, premier livre qu'il publiait, accepté aux prestigieuses éditions de Minuit. Pour la presse ravie de l'histoire, ce coup de baguette magique touchait un amateur, vendeur de journaux à mi-temps dans le nord de Paris. En réalité, l'auteur, récompensé, n'était plus un amateur, et ce depuis longtemps. Il écrivait chaque soir, depuis des années, nourrissant son talent de mémoire, celle d'une famille française de Loire-Inférieure, et se débattant pour trouver sa voix dans le silence proclamé de la mort du roman. Dans un beau livre intitulé « Kiosque » paru chez Grasset, Jean Rouault revient sur ce temps d'avant, celui où il regardait la vie défiler devant son petit théâtre de la rue de Flandre, où il nourrissait son écriture de ces personnages attachants qu'il nous raconte aujourd'hui, mêlant ses visages et ses accents à ceux qui, depuis toujours, l'accompagnent. Bonsoir Jean Rouault.
Bonsoir.
J'ai l'impression, en lisant beaucoup de vos entretiens et en vous écoutant en parler de vos livres à la radio, que vous êtes en fait un homme qui avait traversé des malentendus. D'abord, lorsque vous avez eu le Goncourt, on vous a présenté comme un kiosquier devenu écrivain. Ensuite, on a dit de vous que vous étiez un écrivain de saga familiale. Et même Jérôme Lindon, homme fin, vous avez dit que vous étiez un romancier, non pas un essayiste. Comme si chaque fois il fallait raconter des histoires autour de votre écriture, qui est une écriture qui englobe l'écriture elle-même, qui passe du roman à la mémoire. Vous ne rentrez dans aucune des cases dans lesquelles on avait voulu vous ranger.
C'est vrai qu'en fait, les malentendus commencent assez tôt, puisque quand vous disiez que évidemment, j'ai eu tout de suite le Goncourt avec l'apparition de Champ d'honneur, c'était pas mon ambition. Mon ambition, c'était pas de passer à la télévision, etc. Mon ambition, évidemment, là, on va pas me voir rougir, mais c'était d'entrer en littérature, c'était de laisser une place, de me mettre à côté de Flaubert et Chateaubriand et de ces grands pics, là, comme ça, de cette chaîne de la littérature. Et donc, je savais que cette reconnaissance-là est une reconnaissance impossible, puisque, de toute façon, elle n'arrive qu'après la mort, et donc, je ne serai pas là pour la voir. Donc, vous vous engagez dans une histoire, qui est une histoire de fou, puisque le véritable objectif, s'il est atteint, je ne serai pas là pour le voir. Et quand Lindon m'avait dit on va en vendre 350 exemplaires, il n'y avait aucun problème pour moi. C'était pas ça. Et c'était ni c'est Stendhal qui à un moment, au début dans les années 1800, il s'est pas encore lancé dans le roman, et donc il pense que la solution pour lui, c'est le théâtre. Et il en attend, il dit dans son journal, la gloire, la fortune et les femmes. C'est-à-dire que c'est l'espèce de baume là qui accompagne évidemment un succès, mais qui ne dit pas, on connaît assez bien l'histoire de la littérature pour ça, qui ne dit évidemment pas la réalité d'un talent ou d'un génie. Et que quand on s'intéresse, on parlait de Flaubert tout à l'heure, quand vous lisez les souvenirs de Maxime Ducamp, on les lit pour les pages où il rencontre Flaubert quand ils sont jeunes, lorsqu'ils ne sont ni Ducamp, ni Flaubert, ni Bouillet. Et ça, c'est passionnant, puisqu'on a donc les témoignages sur la tentation de Saint-Antoine dont vous parliez. Mais pour le reste, tous les gens qu'il cite et qui sont prestigieux pour l'époque ne nous disent strictement plus rien. Donc c'est une aventure, encore une fois, folle, qui est même irraisonnable complètement. Et pourtant, c'est ça qui vous tire. Et par rapport à ce que vous disiez sur cette incapacité à dire quel est le moteur d'une action qui normalement ne recueillera pas ses fruits de son vivant, c'est donc quelque chose qui est lié à la mort et à la disparition. Donc il est évident que mes antécédents, c'était cette mort-là de mon père quand j'avais 11 ans, et cette suite de morts que sa mort avait entraînée, et que au fond, de lier la pérennité littéraire au souvenir des morts, il y a quelque chose qui se joue là. C'est-à-dire que ce que j'avais vu après la mort de mon père, c'est comment était apparu un autre homme que celui que j'avais connu. Vous voyez, soudain, il était magnifié. En fait, il devenait une sorte de légende vivante par tous les gens qu'il avait connus, qui me rapportaient ce qu'il avait fait, évidemment, avant moi, notamment pendant la guerre, dans la résistance, etc. Et donc, il y a cette idée que c'est la mort qui rend légitime la vie. Hein. Et donc, quand vous vous engagez dans une aventure comme celle-ci, qui est l'aventure de la littérature, vous n'avez donc de verdict qu'au moment où vous ne serez plus là.
Est-ce qu'on pourrait dire, Jean Roux, en vous écoutant parler justement de cette littérature, de cette écriture contre la mort ou avec la mort d'ailleurs, on ne sait pas trop. Est-ce qu'on pourrait dire de la plupart de vos livres que ce sont des tombeaux, comme on disait autrefois, tombeaux pour...
Oui, c'est surtout que, vous le disiez aussi, quand je me propose d'écrire, c'est-à-dire que je me pose la question de l'écriture et du devenir écrivain, j'arrive en même temps que la mort du roman et la mort de l'auteur, la syntaxe est fasciste, autant de choses qui évidemment ne prédisposent pas à écrire un roman, d'autant que le roman à ce moment-là est considéré comme un genre bourgeois réactionnaire, ce qui était infamant. Hein. Donc là aussi, ce que j'ai compris. Et c'est aussi pour ça que j'écris la vie poétique, qui est un témoignage, pas seulement personnel, de mon chemin d'écriture, mais qu'est-ce que ce chemin d'écriture a rencontré, et qu'évidemment que cette mort du roman annoncé, c'était en fait la mort du roman de la France, et la littérature, la France déqualifiée, qui tombe dans le rang des puissances de second rang, et qui sacrifie en même temps celle qui l'avait portée, à savoir la littérature. Et en fait, il n'y a pas eu que ça. Faut se rendre compte aussi que ces années de la mort du roman, c'est ces années où, dans l'enseignement, dans l'apprentissage de la lecture, on passe à la lecture globale, etc. Où on est beaucoup plus laxiste avec la langue, avec l'orthographe et la syntaxe et tout. Et où ce qui passe en premier, c'est l'expression avant la forme. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui avait fait la grandeur de ce pays, c'est-à-dire sa littérature, sa langue, qui était parlée dans toutes les cours d'Europe. Et c'est comme si, à l'insu vraiment de sa population, il y avait un inconscient collectif qui avait entrepris de détruire cet objet... un objet littéraire qui l'avait rendu puissante, la France. Voyez.
Mais c'est drôle de vous et entendre parler de ça tout le temps, Jean Roux, et encore dans ce dernier livre, Kiosque, parce que, au fond, bon, c'est, disons, Roland Barthes qui a aussi théorisé beaucoup cette mort du roman, Et il s'est rétracté à la fin de sa vie, puisqu'il a fini par avouer qu'en fait, son rêve, c'était d'être romancier. Mmh. Et puis, au fond, cette mort du roman, elle a passé. C'est-à-dire que la littérature est restée en dépit de ceux qui théorisaient sa mort. Mmh. Donc, pourquoi est-ce que vous vous y tenez encore? Vous en avez souffert à ce point-là?
C'est que je suis le seul à m'y intéresser en tant que symptôme. Qu'est-ce que ça veut dire pour le pays, pour un pays qui s'appuyait formidablement sur sa littérature, que soudain de décréter que c'est fini. Qu'est-ce que ça dit? Pas tellement pour le roman, au fond, mais qu'est-ce que ça dit pour le pays? Et ce que l'on traîne, c'est bien ça, quand même, cette espèce de lamentation de ne plus être ce qu'on a été. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est qu'on ait écrit... Il est évident que ce n'est pas l'interdiction ou la mort du roman qui a empêché d'écrire de roman. Mais ce qui m'intéresse, c'est la proclamation. Et qu'est-ce que dit cette proclamation?
Alors, il y a dans vos livres toujours ce rapport au passé, à la mort, au tombeau, aux disparus qui continuent d'habiter dans votre mémoire et dans votre écriture, Jean Rau. Il y a aussi la modernité, on en revient à ce kiosque dans lequel vous avez travaillé de 1983 à 1990. Là aussi, il y avait quelque chose qui se passait entre le passé et le présent. Le kiosque allait devenir un kiosque moderne.
On peut se demander si ce retour au kiosque Montmartre III ne serait pas une façon ironique de dire que la presse en a fini avec l'actualité, qu'elle n'a plus rien à nous apprendre que sa propre histoire. Celle où elle tenait le haut du pavé et tirait le monde, l'annonçait à grands cris, le dénonçait à gros titres, et qu'ayant perdu son pouvoir d'accompagner et de façonner les esprits, elle n'était plus dorénavant qu'un élément de décor, au même titre que les colonnes Maurice et ses anciennes réclames peintes sur les pignons des immeubles, dont les couleurs passent avec le temps. Pour en juger, il suffit de se planter devant l'ancien kiosque, le nôtre, et devant le nouveau aux allures de fac-similé. C'est le prétendument moderne, du moins le penser comme tel, le nôtre, qui paraît vieillot, obsolète, et non le Montmartre III, qui semble être là de toute éternité, comme une religion antique, indéboulonnable, ressurgit indemne des procès en sorcellerie et des attaques de la science et de la raison. Le nôtre ressemble à une petite friche industrielle désormais. La structure tubulaire a perdu de sa brillance et les plaques de plexiglas qui l'habillent se sont ternies, prenant un aspect grisâtre et poussiéreux.
Jean Rau, cette description du kiosque de la rue de Flandre dans lequel vous avez travaillé, il vous permet de lier aussi votre passé, votre mémoire à ces vagues humaines qui passaient devant ce kiosque. Et on s'étonne d'avoir dû attendre 30 ans pour que, comme vous le dites, cette histoire se décante. C'est 30 ans pour que ce souvenir trouve sa place dans cette fameuse vie poétique, puisque c'est le tome 5 de la vie poétique. 30 ans est un bon temps pour écrire sur ces hommes et ces femmes.
J'ai jamais pensé à ça, mais c'est vrai que pour les champs d'honneur, c'est 27 ans après la mort de mon père, oui. Oui, il y a peut-être un délai comme ça, une sorte de prescription où on peut s'autoriser à parler des disparus. Il y a aussi qu'il y a longtemps que je savais que j'écrirais sur le kiosque et qu'il fallait que ça vienne en son temps, que j'avais des choses à faire, j'avais une sorte de programme comme ça littéraire, notamment dans une deuxième partie à me confronter à la fiction, aux questions soulevées par la fiction, et que reprenant ce chemin d'écriture à partir des années 70, bon, il m'a fallu 5 livres quand même, pour arriver à cet épisode central, enfin ce moment central de ma vie. C'est donc au kiosque que je vais écrire les chants d'honneur, et dans une confrontation avec la vie du kiosque, les chants d'honneur dont on peut penser qu'il aurait pu s'écrire n'importe où, puisque de toute façon c'était l'histoire des miens et donc de la mémoire des miens. En fait, pas du tout. Il s'est construit avec la mémoire, avec le récit des gens qui passaient au kiosque. Et la grande révélation du kiosque, ça a été que tout le monde était adossé à une tragédie. Et notamment tous ces gens qui venaient de partout. C'était la première vague des boat people. Donc,
Chacun avait sa guerre.
Chacun avait sa guerre. J'ai raconté, mais ce petit chinois, j'ai petit parce qu'il était petit, qui me dit, fumant sa cigarette comme ça, c'était avant la guerre, et je voyais bien que ça collait pas avec la mienne de guerre. Mmh. Et qu'évidemment, lui faisait allusion à la guerre à la guerre du Vietnam, il y a eu un autre, c'était la guerre du Liban. Enfin, chacun avait ses tragédies, où c'était Pinochet, où c'était les colonels avec les Chiliens et les Argentins. Et il y avait aussi la mémoire des pieds noirs. Il y avait beaucoup de pieds noirs dans le quartier, et dont certains fondaient encore en larmes à l'évocation du départ en catastrophe, comme ça, quand ils étaient sur le tarmac ou sur le quai d'Alger.
Justement, Jean-Raud, quand on lit ces pages magnifiques sur ces gens qui étaient déshabitués, qui passaient, qui revenaient, qui à chaque fois vous livraient une bribe de leur propre histoire, je me demandais si, au fond, à l'époque, vous étiez conscient de cet apport littéraire, enfin de cet apport formidable qu'il déposait en vous. Est-ce que vous aviez le sentiment que ces histoires-là allaient vous nourrir, ou est-ce que c'est quelque chose, une conscience qui est venue plus tard?
Je n'ai jamais écouté ces gens avec l'idée que j'en ferais des récits. C'était pas ça, c'était par un pur intérêt pour ce qu'ils me racontaient, pour leur, parce que derrière il y avait des histoires formidables aussi, qu'évidemment on ne soupçonne pas, que même les livres d'histoire sur ces thèmes-là évidemment ne relatent pas, parce que là on est devant des vies individuelles avec évidemment des événements qui vont pas remplir 10 pages, mais c'était vraiment par intérêt pour les autres. Et quand j'ai commencé d'écrire Kiosque, il est évident que la question, c'était comment faire rentrer toutes ces vies dans le livre sans faire un catalogue comme ça. Donc ce que j'ai...
J'allais dire comme les journaux dans le kiosque.
Voilà, c'est ça. Donc l'idée, c'était d'avancer, et puis dès que soudain il y avait une image d'un personnage comme ça qui ressurgissait, pas de le, quel que soit le moment où j'étais de mon récit, c'était de comme des incrustations, vous voyez. Et mais ce qui est vrai, c'est que sur le coup, c'était moi qui étais enfermé quand même dans cette enfance un peu triste. Il y avait une tristesse exponentielle devant moi. Vous voyez, c'était soudain ça banalisait ce chagrin-là. Et si des chagrins plus grands pouvaient se dire par ces gens qui racontaient leur histoire tragique, alors la mienne d'histoire pouvait aussi peut-être se raconter, vous voyez.
Ce qui vous réunit aussi à ces vagues de vie qui venaient s'échouer sur le kiosque, au fond, et vous le dites assez bien à un moment, c'est qu'il y avait cette tristesse, il y avait ces drames, mais il n'y avait pas de plainte.
Non, et ça c'était une des grandes leçons du kiosque et de Paris. Parce que tous ces gens-là faisaient des Parisiens. Vous voyez, d'où, quel que soit leur pays d'origine, c'était tout ça qui faisait Paris, qui faisait la vie de Paris. Et il y avait effectivement toujours cette façon de ne pas s'apitoyer, et puis de tourner un petit peu en dérision, et une forme d'humour, d'esprit comme ça, parisien. Vraiment. Et ça m'impressionnait beaucoup.
Il y a aussi dans votre mémoire et dans votre écriture, Jean-Raud, toujours ce tissage formidable entre l'actualité, enfin ce qui se passe devant votre kiosque, et les souvenirs qui rejaillissent, et comment les vies des uns se lient à la vie des autres.
Sur la fin de sa vie, notre mère aurait bien troqué son magasin de belle vaisselle contre un commerce de draps et de nappes. À cette façon qu'elle avait d'éprouver en connaisseuse la qualité d'un tissu, en le frottant doucement entre ses doigts, on sentait bien que la porcelaine et le cristal étaient une culture d'importation, un apprentissage, même si elle faisait autorité dans le canton et au-delà, où elle avait fini par s'imposer comme la référence en matière de liste de mariage. Ce à quoi me renvoyaient ces femmes qui continuaient dans le quartier de la rue de Flandre à reproduire des gestes et une pratique que je croyais disparue avec les métiers d'autrefois, avec le bourrelier, le forgeron, le maréchal Ferrand qui avait pignon sur rue dans le bourg de Cambon, et n'ont pas survécu à l'arrivée du tracteur. Les solliciter, c'était ma manière de reprendre langue avec mon enfance. J'avais quitté le pays natal, senti profondément que je n'avais plus rien à y faire. Je venais de passer la trentaine et regarder devant moi ne m'apportait pas beaucoup de réponses, hormis celle de ma prétention à écrire et son improbable résultat. C'était peut-être l'occasion de se retourner. Ces patrons constituèrent une des premières étapes de ma remontée dans le temps. Me revenaient les gestes de notre grand-père, un coussinet planté d'épingles à son bras, qui ajustait sur un mannequin de toile les découpes de papier sulfurisé. j'aurais pensé que la pratique en avait été abandonnée depuis que le prêt-à-porter avait affirmé sa suprématie sur le monde de la mode. Et soudain, mes couturières me ramenaient dans l'atelier de Riaillé, avec son odeur de tissu, que je retrouve parfois dans un rayon de vêtements, pour peu qu'il ne voisine pas avec l'alimentation. Je l'avais connu finissant, cet atelier, auquel on accédait du magasin par un couloir dérobé et qui donnait sur la cour où se trouvait un puits de pierre, surmonté d'un petit toit d'ardoise à deux pans, gardant surtout le souvenir d'une pièce abandonnée avec ses machines à coudre. Mais notre mère aimait raconter comment, enfant, elle se joignait aux quatre ou cinq ouvrières pour tirer le fil et chanter avec elles, ce qui ne doit pas être le cas dans les usines incendiaires du Bangladesh. Et on sentait qu'elle nous livrait, elle si triste, une part lumineuse d'elle-même. Il n'est pas impossible que ce soit la revue Burda et mes couturières de Flandre qui m'aient renvoyé au souvenir du vieux tailleur, homme secret qui fumait ses cigarettes à la chaîne dans sa deux chevaux. De même que c'est une après-midi de pluie lancinante, ce rideau de perles qui goûtait du toit et m'enfermait dans le kiosque comme ces aventuriers trouvant refuge derrière une cataracte, qui me réconcilia avec la météo de ma Loire inférieure. La rue se vidait de ses passants. Les Parisiens se moquent du froid, mais n'aiment pas la pluie, ce qui me changeait de Nantes, où les goûts sont rigoureusement inverses. Le travail de classement et les comptes achevés, dérangés par rien que par le martèlement de l'averse sur le toit de plexiglas, j'avais tout le temps de la regarder tomber. Et c'était mon pays de pluie qui ressurgissait. Le kiosque, patiemment, recollait les morceaux de mon enfance.
Jean Rouault, toutes les écritures ne se prêtent pas à la lecture. Alors là, c'est vrai qu'il y a le talent si grand de Laurent Stocker, de la Comédie Française, qui nous a fait l'amitié de lire les extraits de votre livre. Mais en l'écoutant, on se dit qu'on aimerait avoir vos livres lus de cette manière-là. Ce qui veut dire aussi quelque chose de l'écriture. Alors, sans vous comparer à Proust, il y a une parenté dans ces phrases qui englobent et le monde disparu et le monde présent, qui lie les mémoires et les expériences humaines. J'imagine que, et pourtant, dans les champs d'honneur, on trouvait déjà ça, mais j'imagine que c'est une grande pratique de l'écriture qui vous a permis de trouver votre musique personnelle.
Moi, mon problème, c'était le roman, c'est-à-dire le pur récit. La première rencontre avec Jérôme Lindon, donc l'éditeur des éditions de Minuit, s'est faite autour de ça, c'est-à-dire qu'il me déconseillait de faire ces digressions et de sortir du récit. Et il m'avait dit, vous n'êtes pas penseur, vous n'êtes pas philosophe, vous n'êtes pas essayiste, vous êtes romancier. Donc d'un côté, il m'adoubait, et de l'autre côté, il m'amputait quand même. Parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est pas simplement de raconter des histoires, c'est de savoir qu'est-ce qu'elles disent, ces histoires-là. Et donc, pendant tout le temps que j'ai passé à Minuit, je me suis interdit ça parce que ce n'était pas la volonté de Jérôme Lindon, qu'il y avait une sorte d'autocensure comme ça. Et si je suis parti de Minuit, c'est pour cette raison, pour m'autoriser cette pensée libre comme ça, qui se déroule comme un écheveau là, et qui tisse sa toile à vue, et c'est-à-dire d'outrepasser le simple récit pour aller vers la réflexion, et que dès que quelque chose, prenons le kiosque, ce kiosque en tube là comme ça, qui était un peu ridicule mais qui avait une prétention à la modernité, qui disait pour l'époque cette idée que Paris n'était pas une ville musée, la preuve Paris était toujours en point de modernité et tout. Donc j'ai besoin de raconter tout ça, de dire tout ça, parce que quand je regarde, je pense aussi. Donc je vois pas pourquoi j'aurais été privé de cette lecture-là intérieure qu'offre la réflexion. Et comment le grand intérêt, c'est de faire entrer tout ça dans une phrase. Il y a des choses, par exemple, que je n'aime pas dans certains livres comme ça. C'est soudain, vous avez le récit, et puis d'un coup, paf, vous avez la grande réflexion philosophique, etc. Je trouve ça un peu lourd. Et au lieu que l'enjeu, c'est d'emmêler tout ça, quoi. Vraiment de faire une pelote avec tout ça, de façon à avoir des motifs qui parfois amusent, des motifs qui parfois font songer, des motifs qui peuvent amener à être plus chagrin. Et c'est de tout ça que se compose la vie. Une vie, ce n'est pas juste un récit quand même.
Vagabonde sur France Inter.
Jean Rouault, ce kiosque est le cinquième tome de la vie poétique et vous avez toujours pris soin de séparer vos livres en plusieurs cycles. Il y a le livre des morts, il y a la déposition du roman, il y a le manifeste littéraire. Qu'est-ce que représente pour vous tous ces cycles? Est-ce qu'il y aura un moment où tout d'un coup tout ça se rejoindra pour faire une œuvre que l'on appellerait comment ? Poétique ?
De plus en plus, mon idée, c'est de dire que la poésie est un mode de connaissance. Et la poésie, au sens large, je ne m'en tiens pas au poème, parce que le poème, c'est pas ma forme d'expression. L'intimité du poème, c'est pas pour moi. Mais la poésie comme mode de connaissance, c'est-à-dire que c'est par ce biais qu'on échappe à la raison et qu'on échappe à la logique, enfin, c'était déjà évidemment la thèse des surréalistes, et que de Proust, chaque jour j'attache moins de prix à l'intelligence. C'est-à-dire que l'intelligence comme obstacle à la connaissance, en fait. Et qu'il y a une connaissance qui échappe à la logique, qui échappe à la raison, et qui n'est perceptible que par cette forme poétique qui consiste à fonctionner par association, par esprit d'escalier. Enfin, c'est ce qu'a repris aussi la psychanalyse, hein. Et que c'est la seule manière d'aller voir au-delà. La psychanalyse, c'est comment est-ce qu'on va piocher dans son inconscient? C'est précisément par ce jeu des associations, hein. Eh bien, poétiquement, vous avez, par ce même jeu d'associations, vous arrivez à trouver des choses qui n'ont pas été dites et formalisées. Du coup, dans cette pensée poétique, vous avez à la fois la réflexion qui peut être raisonnée, qui peut être développée, et puis toutes ces choses qui arrivent, qui apparemment arrivent comme des choses sur la soupe, enfin, où on se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Au début de Pour vos cadeaux, qui est le roman sur la mort de ma mère, je raconte au bout de trois lignes l'histoire des enragés, c'est-à-dire ces gens qui avaient été mordus par un animal enragé, et les souffrances étaient telles qu'on les étouffait. Et l'Église, qui normalement est quand même un peu tatillonne là-dessus, fermait les yeux, alors qu'on savait que ça avait été un meurtre. Et autorisait une sépulture chrétienne. Et je dis, mais qu'est-ce que vient faire là ces enragés, etc., au bout de trois lignes? Normalement, si je me fie à la logique du roman, je fais sauter ça. Mais je garde ça, je fais comprendre un jour. Et ce que j'ai compris, c'était après la fin du roman, c'est que, assistant à l'agonie de ma mère, j'avais eu aussi envie de l'étouffer sous son oreiller, voyez. Et donc cette image-là parlait pour une scène qui n'était pas à ce moment-là formulable pour moi, parce que on n'a pas envie de hurler ça sur les toits, que pour abréger la souffrance de quelqu'un, on aurait envie d'y mettre fin. Surtout que c'est pas simplement sa souffrance, c'est aussi s'épargner la vue de cette souffrance-là, ce qui est encore moins glorieux. Et donc c'est cette image des enragés qui s'est imposée comme ça dès le début, qui m'a permis après, vous voyez, de dire cette vérité-là.
Mais vous êtes presque en train de dire, Jean Rault, que ça écrit en vous, quoi. Que oui. Quelque chose et quelqu'un écrit en vous avant que vous compreniez de quoi il s'agit.
C'est-à-dire que ce ça-là, c'est quelque chose que j'ai réussi à... D'abord, il faut c'est comme des exercices spirituels. Il faut littéralement se désentraver l'esprit, parce que on a tous un esprit raisonnable, raisonneur, et que j'appelle ça se désendiguer. C'est apprendre, c'est pas simple, c'est pas du jour au lendemain qu'on s'autorise ça, qu'on enlève toutes ces digues-là, de façon à ce que l'information puisse circuler. Simplement, un texte, c'est aussi une construction. C'est élaboré. C'est pas des choses, des mots que vous jetez comme ça au hasard, que vous tirez d'un chapeau. Donc c'est à la fois, vous avez ce besoin de se désentraver l'esprit, et en même temps, c'est-à-dire de former un cadre pour recueillir ce qui pourrait être juste un déferlement sans forme.
Alors on va, pour le plaisir, réécouter une page de votre livre, Jean Rault, une page de ce Kiox, c'est toujours la voix de Laurence Tocquer.
Les sœurs Calvez appartiennent à la préhistoire du métier, à un autre monde, où les mêmes mots ne désignent plus tout à fait les mêmes choses, mais ce sont elles, mes devancières, mes inspiratrices, mes parcs réduites à deux. Elles habitaient une petite maison basse, dans une ruelle à gauche en montant, sur le haut de la place, qu'aucune enseigne n'annonçait et dont elles avaient aménagé la pièce d'entrée en maison de la presse. Ce que nous n'appelions pas ainsi. Maison de la presse, c'eût été beaucoup trop grand pour loger une unique table de bois sur laquelle elles étalaient, selon la technique du couvreur et de la pose des ardoises, une dizaine de magazines, plutôt féminins. Non pas ceux qui vantent les dessous chics, les endroits à la mode, les régimes miracles et les charmes d'un amant, mais les pratiques. Les vies courantes, jamais en panne d'idées, de bottes secrètes, d'astuces pour bien tenir sa maison, faire des économies, récupérer les bouts de chandelles, les bouts de ficelle, se comporter en épouse modèle qui tricote, asticote, accommode les restes, éventuellement se maquille la paupière à l'aide d'une allumette brûlée, qu'elle stocke pour 1000 usages, car rien ne se jetait alors, dans une boîte accrochée au-dessus de la gazinière. Et puis d'autres revues pour soigner ses bégonias, engraisser son jardin, suspendu par des épingles à linge en bois à une ficelle de chanvre, tendue entre deux clous, à travers le chambranle de la petite fenêtre, à quatre carreaux qui tenaient lieu de vitrine, remplaçant les rideaux. Aucun titre à sensation. Les nouvelles du monde, transitées par Le Pèlerin et La Vie catholique illustrée, pour les hebdomadaires, et par Ouest France et La Résistance de l'Ouest, qui allait devenir plus tard Presse Océan, pour les quotidiens. À nos yeux d'enfants, les sœurs Calvez appartenaient déjà à des temps anciens. Peut-être pas si vieilles, mais la vieillesse commençait tôt au début des années 60, dans les campagnes de l'Ouest. Elles étaient à l'image des femmes laborieuses du pays, pour qui l'apparence n'était pas le souci premier.
Jean Rault, on sait bien que cette mémoire-là, dont on vient d'entendre un exemple dans la voix de Laurence Tocquer, elle vit parfaitement en vous, avec une fraîcheur, les couleurs, les sons, les personnes, ça vous constitue. Et on se rend compte en lisant Kiosque que le souvenir des histoires et des gens qui sont passés par votre kiosque, vous avez dû opérer une réactivation de la mémoire à l'aide de, vous dites, de haïku. Vous aviez pris à l'époque des petites notes, comme avec cette forme de petit poème japonais, et que lorsque vous les avez retrouvées, la mémoire s'est déployée un peu comme un origami japonais, justement. Mmh. À partir de ces quelques petits mots, tout d'un coup, elle est revenue. Il y a donc une différence énorme entre ces deux mémoires. L'une qui vit en vous, parfaitement conservée, et l'autre qu'il a fallu reconstituer.
Mais l'autre, elle a été sollicitée par ces petits textes que je n'avais pas écrits avec l'idée de garder la mémoire de ces gens. C'était des exercices pour apprendre à dire le réel sans aucun effet de style. Pour revenir à Flaubert, et quand il se rend malade au moment de l'écriture de Madame Bovary, il comprend qu'il doit s'opérer du cancer du lyrisme. Oui. C'est-à-dire que l'idée de la littérature en France, c'est quand même l'idée d'une littérature lyrique. Hein. C'est l'effet de style, c'est la plume, c'est jamais le. On laisse le compte rendu au journaliste ou au greffier ou à l'huissier. Et donc ce qu'il y avait de formidable, ce qu'il y a de formidable dans les haïkus, et ce que j'y trouvais moi, et également dans la poésie chinoise, mais tout dans les haïkus. C'était que la poésie surgissait sans aucun moyen poétique. Ça, je trouvais ça fascinant. Et je dis, donc on peut parler poétiquement sans les effets poétiques. Et donc je m'appliquais comme ça à faire des petits haïkus sur les gens qui passaient ou sur une scénette. Et je les notais le soir, mais comme des exercices de style, pas avec l'idée de, encore une fois, de plus tard de m'en resservir pour parler de ces gens-là. Mais il se trouve que lorsque j'ai entrepris d'écrire Kiosque, j'ai retrouvé ce petit carnet, et pourtant il n'y a pas grand chose qui m'a accompagné depuis, mais celui-là il n'était pas volumineux, donc j'ai pu le glisser dans un sac dans mes voyages et dans mes pérégrinations. Et à chaque haïku, je voyais ressurgir la scène. Parce que j'avais gardé une bonne mémoire du kiosque, mais c'était des milliers de gens, le kiosque, hein. Donc en tout cas des centaines, ça c'est sûr, et que certains évidemment s'étaient imposés avec le temps, mais que d'autres avaient une existence plus éphémère et qui soudain ressortaient tout neuf, c'est comme ces fresques quand vous découvrez une tombe et vite avant qu'elle s'évanouisse là à la saisir, et comme ça surgissait toute une galerie de portraits. Et puis il y avait cette possibilité que me donnait ces haïkus, c'était de rendre compte de ma difficulté à ce moment-là à faire rentrer le réel dans mon écriture, qui rebiffait, comme Flaubert. C'est pour ça que la lecture de toutes les correspondances de Flaubert m'a accompagné pendant toute cette période-là. Je me disais, voilà, je suis pas seul, il y a un type, il est quand même assez bien arrivé, et il est passé aussi par là. Il a fallu qu'il casse sa propension au lyrisme et au romantisme. Donc, ce qui a été pour lui les conseils de Balzac via le roman balzacien, le roman naturaliste, réaliste, ça a été pour moi les haïkus.
Eh bien Jean Rau, il me reste à vous remercier d'avoir bien voulu venir nous parler aujourd'hui de ce kiosque, cinquième volet de votre œuvre poétique, et à peu près 20e livre quand même depuis le Goncourt de 1990. Kiosque est paru chez Grasset, je le recommande vivement. C'est un plaisir, pas seulement quand il est lu par Laurent Stocker, mais aussi. Merci à vous, Jean.
C'est moi qui vous remercie.
Au revoir.
Et remercie Laurent Stocker parce que c'était vraiment très bon.
C'était formidable. Merci. C'est fini pour l'humeur vagabonde de ce jour. Nous nous retrouverons dans une semaine, mais bien sûr, France Inter continue puisqu'après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Julia Foyce et son Babel sur scène. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter, bien entendu.